caché derrière un arbre. Je photographie des plaques minéralogiques au téléobjectif. Comme le parking est plein, je procède par ordre, de la voiture la plus luxueuse, une Bentley garée devant les toilettes, et ouais, à la plus cheap. De combien de temps je dispose avant que mon bonhomme, un millionnaire du nom de Peyton Booth, réapparaisse? 5 minutes, peut-être 10. Pourquoi ces photos? Pour que mon associé puisse obtenir des adresses mail grâce au numéro d'immatriculation. Elle enverra les photos aux propriétaires des véhicules et les menacera de les rendre publiques s'ils ne transfèrent pas de l'argent sur un compte Google Apps intraçable. Une somme de $500, pas plus. Pas la peine d'être trop gourmand. S'ils ne répondent pas, ce qui arrive dans 90% des cas, on laisse tomber. Mais on gagne quand même assez pour que ça en vaille la peine. Ouais, les temps sont durs. Vraiment. Je me trouve de l'autre côté du parking, habillé comme ce qu'on avait l'habitude d'appeler autrefois un vagabond ou un clodo. J'ai oublié quel est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Alors je demande à Debbie. Sans domicile fixe, répond-elle. Et aussi sans abri. Les deux sont nuls. Lequel tu préfères? Déesse. Debbie, la déesse, prétend qu'elle a 23 ans, mais elle paraît plus jeune. Elle passe le plus clair de son temps posté devant bon nombre de... comment dire... de clubs pour hommes. Tu parles d'un euphémisme. Elle attend qu'un type y entre ou en sorte, et des larmes plein les yeux, elle crie « Papa, pourquoi tu fais ça ?» Elle a commencé ce manège pour le fun. Elle adore la façon dont les mecs s'arrêtent soudainement, le visage blême. Désormais, quelques habitués lui disent bonjour et vont même jusqu'à lui lancer un billet de $20. « C'est une activité à la fois capitaliste et éthique », m'explique-t-elle. « Comment ça ? Le côté capitaliste est évident. » Les dents de Debbie sont saines, ce qui est plutôt rare par ici. Ses cheveux, impeccables. Ses bras sont clean. « D'accord, tu te fais du fric. Mais où est l'éthique ?» Elle semble sur le point de pleurer. Quelquefois, quand un type m'entend, il part en courant. Comme si j'avais touché une corde sensible. Comme si je lui rappelais qui il était. Peut-être, seulement peut-être, qu'un jour, une fille interpellera mon père de cette manière. Une fille comme moi fera quelque chose, n'importe quoi, qui empêchera mon père d'aller dans un endroit comme ça. Sa voix faiblit. Elle baisse les yeux, cligne des paupières, tandis que sa lèvre tremble. Je la fixe une seconde. « Tu vas me faire chialer, Debbie. » Les clignements et frémissements cessent immédiatement. « Quoi ?» je lui demande. « Tu crois que ça va marcher avec moi, ton petit numéro de père éploré ? Tu rêves ?» En rigolant, Debbie me flanque un coup sur le bras. « Putain, Kirse, t'as dû être un super flic. » Elle n'a pas tort. Comment a-t-elle fini dans la rue ? Je l'ignore. Je lui demande pas, elle ne me raconte pas, et ça nous convient très bien. Je consulte ma montre. C'est le moment ? Demande Debbie. Ouais. Tu te souviens du code ? Je m'en souviens. Si elle crie « Papa, pourquoi tu fais ça ?», c'est que c'est pas le bon type. Mais si c'est « Papa, je suis enceinte de toi », ça veut dire que Peyton vient de sortir. C'est elle qui a trouvé ça. Je lui file $50 pour le job, et si l'avocat Classio obtient ce qu'il cherche, j'en ajouterai 50. Elle se place à un endroit d'où elle peut voir la porte du club, alors que depuis ma planque, c'est impossible. Comme je lui ai montré une photo de Peyton sur mon téléphone, elle sait à quoi il ressemble. Vous avez sans doute deviné que Peyton est en instance de divorce. Ce boulot est un jeu d'enfant. Je dois le surprendre en flagrant délit d'infidélité. J'en suis réduit à ça depuis que j'ai été viré de la police pour avoir sérieusement déconné. Le pire, c'est que même si je travaille pour le plus prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan, je suis pas payé. J'ai un accord avec eux. Donnant-donnant. Je suis poursuivi en justice par la famille d'un collégien. P.J. Dawson. D'après la procédure, j'ai sérieusement mis en danger le dit P.J. en le poursuivant sur le toit d'un immeuble de 3 étages. À cause de ma négligence, le jeune PJ a glissé et dégringolé jusqu'en bas, ce qui lui a valu de sérieuses blessures. Ce prestigieux cabinet, dont le nom est Whitshaw, mais que tout le monde surnomme White Shoe, se charge de mon cas en échange de petits boulots noirs. Un chouette pays, l'Amérique. Peyton est un chef d'entreprise ultra-conservateur et apparemment, parce que nous sommes tous de sacrés hypocrites, c'est aussi un grand amateur de dames. D'après l'avocat de sa femme, Peyton a une faiblesse pour les pétasses blondes décolorées, dotées d'énormes seins siliconés. L'épouse était convaincue qu'il couchait avec sa voisine. J'ai vérifié. Certes, la voisine en question collait avec la description, mais il ne se la tapait pas. Peyton a garé sa Lexus dans un coin reculé du parking, à l'abri des regards. C'est pour ça que je suis perché sur un talus d'où je peux photographier ce qui se passe. Plus près, je risque d'être repéré. Plus loin, je n'aurai rien. Il faut donc que je reste là et que Debbie me prévienne quand mon bonhomme va s'en aller. Le parking a été intelligemment conçu pour brouiller les pistes. Un magasin genre bazar et un fleuriste offrent une couverture convenable à la clientèle de ce club pour hommes. Enfin, convenable, c'est vite dit. Croyez-le ou non, le fleuriste s'appelle « Une belle tige pour l'occasion ». Une photo de Peyton à l'intérieur de sa voiture garée là ne vaudra rien au tribunal. Mais si je le pince en compagnie d'une danseuse, encore un euphémisme. Vous aussi, vous regrettez le bon temps où on pouvait encore appeler un chat? Alors là, c'est une toute autre histoire.
Papa, pourquoi tu fais ça?
Crie Debbie. Mon appareil est fixé sur un trépied. J'ajuste l'angle. Voilà. Pile sur le pare-brise de la voiture. J'ai l'œil vissé à l'objectif quand j'entends une voix dans mon dos. « Où est Debbie ?» D'un bref regard, je déduis qu'il s'agit d'un clodo ou d'un sans-abri, si vous préférez. « Elle travaille. »« Je suis Raymond. »« Salut, Raymond. »« D'habitude, elle m'apporte un sandwich. »« Elle va arriver plus tard. »« D'accord, Raymond ?» Elle sait que j'aime pas la maillot. C'est noté. Elle t'a dit comment les avions tiennent en l'air?
Non.
Tu veux que je te dise?
J'ai pas le choix, si?
C'est des sorcières.
Des sorcières?
Des sorcières volantes, pour être exact. 3 par avion. Une pour tenir l'aile droite. Une autre pour l'aile gauche. Et la troisième, à l'arrière, pour tenir la queue.
J'ai déjà pris l'avion. J'ai même été assis près de l'aile. Jamais vu de sorcière. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il m'arrive de temps en temps de parler et d'agir sans mesurer les conséquences. C'est peut-être pour cette raison que, du boulot de policier spécialisé dans l'arrestation de criminels dangereux, je suis passé à celui d'indic à la petite semaine. Posté devant chez une belle tige pour l'occasion. Raymond fronce des sourcils.
Elles sont invisibles, espèce d'idiot.
Des sorcières volantes invisibles.
Mais tu crois quoi? Que ces gigantesques tubes de métal peuvent rester en l'air sans aide? Ben dis donc, tu crois tout ce que le gouvernement raconte?
T'as raison, Raymond.
Un Airbus standard pèse au moins 50 000 kilos. Tu savais?
Non.
On est censé croire qu'un bazar aussi lourd flotte dans les airs au-dessus de l'océan. Ouvre les yeux, mec. On t'a manipulé? T'as entendu parler de la chute des corps? La physique, c'est bidon.
Pareil pour les sorcières.
Ouais, les sorcières. L'humanité, c'est une grosse blague.
Impossible de ne pas répliquer. Tu veux dire quoi, là, Raymond?
Tu vois pas?
Non.
Un jour,
dit-il en se frottant les mains et s'humectant les lèvres,
quand les imbéciles que nous sommes feront pas attention, toutes les sorcières, en même temps, elles lâcheront tout.
Elles lâcheront les avions?
C'est ça. Les sorcières laisseront tomber tous les avions en même temps, en ricanant, comme des sorcières, tu vois.